Vous écoutez
RMC. RMC. Le bras de fer GG.
Oh là là, regardez d'où il le tire ce passing.
Il était très très loin, effectivement, Yannick Sinner.
C'est pas cool quoi, quand tu vois comment d'autres dossiers ont été gérés et que lui il a pu continuer à jouer.
C'est fait, il le tient, son deuxième Masterville, Yannick Sinner.
Tricheur,
mauvais joueur. C'est pas correct.
Sinner a une belle balle de coup droit, il attaque, c'est gagnant, c'est fini. Novak Djokovic tombe.
Ça c'est de la triche, comment?
La façon dont c'est géré, tu te dis, moi, il y en a qui sont un peu plus protégés que d'autres.
L'impensable s'est produit à Melbourne.
On n'est pas tous logés à la même enseigne.
Yannick Sinner élimine Novak Djokovic.
C'est le moment où tu as été testé positif, une fois, deux fois, tu dois prendre comme tout le monde, tu dois être suspendu.
Et c'était Lucas Pouille hein, qui parlait en dernier. Sans affaire, la saison 2024 en tennis serait celle de la prise de pouvoir de Yannick Sinner. Cette année, l'Italien a marché sur la concurrence. L'Open d'Australie gagné, deux Masters 1000, Miami-Cincinnati, la place de numéro 1 mondial. Et ce soir, donc la finale de l'US Open face à l'invité surprise, Taylor Fritz. Oui, mais voilà, cette histoire de dopage révélée en août est venue jeter une ombre hein, à cette ascension sublime. Une victoire de Sinner ce soir entacherait-elle l'image du tennis? Dans le coin gauche, la team oui. Le courageux, représenté uniquement par Christophe Cessieux. Dans le coin droit, la team non. Julien Beneteau, Fred Weiss, Pascal Duprat et pourtant Christophe Cessieux. Allez, vote avec lui pour l'instant. 55% oui, ça entacherait l'image du tennis. 45% non. Donc le camp du non, vous allez commencer. Mais avant de débattre, on va retrouver notre envoyé spécial à New York, Eric Salio. Salut Eric. Comment Yannick Sinner a traversé cette quinzaine avec le public américain?
Salut les grandes gueules. Oui, je comprends votre questionnement, mais je vais peut-être vous étonner ou vous décevoir. Mais l'affaire Sinner, elle a glissé avec le temps. On en parle quasiment plus. Et Gilles Cervara, le coach de Daniil Medvedev, que j'avais rencontré en milieu de semaine, il a résumé la situation.
Qu'est-ce que tu peux dire au final? Il a été positif sur un truc, il a été innocenté, ça s'arrête là. Et puis on n'est pas... Enfin, je vois pas ce qu'on peut dire en fait.
Quant aux fans, leur seule préoccupation, c'est de faire la queue pour acheter le fameux cocktail Honey Juice, $23, vodka, liqueur de framboise. Et quand ils sont sur le court, ils s'agitent au changement de côté pour être captés par une caméra et passer sur les écrans géants. J'exagère à peine. Il faut reconnaître aussi que Yannick Sinner était très bon dans sa com. Il a pris le temps d'expliquer comment son équipe avait compris comment le cluster ball s'était retrouvé dans son corps. Il a confirmé aussi qu'il s'était séparé de son préparateur physique et de son kiné, qui avait été, il est vrai, un peu négligent. Il était transparent. Le seul moment de gêne que j'ai observé, c'est lorsqu'une journaliste anglaise lui a demandé quelle serait sa réaction si Nick Kyrgios devait l'interviewer sur le court. Précisons que l'Australien avait réclamé la suspension de l'Italien et qu'il est l'un des hommes de terrain d'ESPN. Là, j'ai trouvé Sinner légèrement ébranlé.
Je ne sais pas quoi dire. Peut-être que je dis quelque chose maintenant et que la réaction sera différente parce que vous vivez dans l'instant présent. Mais non, je suis toujours très détendu. Je suis quelqu'un qui oublie vite quelque chose. Comme je l'ai dit, tout le monde est libre de tout dire. Alors, c'est comme ça, oui.
Bon, je vous rassure, Nick Kyrgios n'a jamais été désigné par ESPN pour les matchs de Yannick Sinner. Et c'est pas si étonnant que ça quand on sait que Darren Cahill, le coach du numéro mondial, collabore avec la chaîne américaine. Il y a eu clairement un petit arrangement entre amis. Fallait surtout pas faire de vagues. Voilà pourquoi l'extra-sportif a été relégué très vite au second plan.
Pas de vague. Une victoire de Sinner entacherait-elle l'image du tennis? Pour l'instant, vous êtes 55% à dire oui. Le camp du non, Julien Beneteau, Fred Weiss, Pascal Duprat, c'est vous qui commencez. Avant d'écouter l'expert, évidemment, quand même, Fred Weiss, non, mais je sais que ça vous tient à cœur ce sujet, Fred Weiss et Pascal Duprat.
Mais pour moi, c'est assez simple. Pourquoi ça l'entacherait? Premièrement, parce que concrètement, il a été reconnu coupable d'avoir pris un produit illicite, d'accord? Ensuite, il y a un tribunal indépendant qui est arrivé et qui a dit non, enfin, en tous les cas, l'explication fournie par Sinner a été suffisante pour nous pour reconnaître que ce n'est pas de sa faute. Tout a été fait dans les règles, c'est-à-dire qu'il a perdu ses points, il a perdu son prize money parce que, effectivement, quand il a joué au tennis, il avait dans son sang ce produit dopant, mais il a réussi à l'expliquer avec une valeur suffisante pour qu'un tribunal indépendant, je me répète, juge que finalement, il n'y avait pas d'affaire.
On ne parle pas de preuves, on ne parle d'image.
Mais en fait, à un moment, on ne peut pas demander à la justice qu'elle juge comme on souhaite qu'elle juge. Elle a jugé d'une certaine manière. À partir d'un moment, on est qui pour être au-dessus de la justice?
On ne refait pas le procès, je te parle d'image.
Oui, mais l'image, elle est entachée en quoi? C'est-à-dire qu'en gros, le mec a dans son corps quelque chose, de façon infime, hein. On l'a reconnu aussi.
Comme Alberto Contador, tu te rappelles, Alberto Contador, infinitésimal. Pourtant, on en parle encore, 10 ans plus tard. D'accord. C'est ça la différence de traitement entre certains sports.
Mais oui, c'est peut-être une problématique. Sauf que, encore une fois, il y a un jugement. Je vois pas pourquoi on entacherait quelqu'un sous prétexte que peut-être qu'il s'est dopé. Non, il y a quelqu'un d'indépendant qui a jugé qu'il ne s'était pas dopé. Donc, en termes d'image, il n'y a pas de problème.
C'est l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis.
Les deux sports n'ont pas le même historique aussi, Christophe, c'est pas
ça. Non, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu d'affaire de dopage en tennis. En tout cas, vous les avez toujours mis sous paillasson. Non, mais
Christophe Cessieux, en termes d'image, est-ce que tu peux zapper cette image-là? Parce qu'il a été innocenté. Du haut de ta probité de journaliste qui a bien enquêté, il a été innocenté. Innocenté. Ok? Et moi, je prends des faits. Ok? Je regarde les images et je vois Stiner quand il était au début de sa carrière et je le vois aujourd'hui. J'ai pas l'impression d'une grande transformation de masse musculaire.
C'est le même garçon.
Les stéroïdes anabolisants. Laisse-moi terminer. Les stéroïdes anabolisants favorisent la prise rapide de masse musculaire. Donc moi, je vois pas Stiner changer en l'espace d'un an au point de me poser des questions. J'ai vu Nadal transformer
comme ça, non, comme un petit mouton, non, et tu continueras jusqu'au bout. Surtout, ferme ta bouche,
il y a suffisamment de grain à moudre dans le sport. Laisse tranquille Stiner. Il y a plus
c'est pas à Stiner que je veux m'attaquer. C'est la façon dont le tennis traite les affaires de dopage.
Ça, c'est pas de sa faute.
Non, mais je te parle pas de lui. C'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'une victoire entacherait l'image du tennis? Moi, je veux parler de l'image du tennis. Toi, tu me parles. Il a pas été prouvé qu'il était coupable. Ok. On est parti là-dessus. Moi, je veux te parler de la façon dont le tennis gère le dopage. C'est-à-dire que c'est le seul sport qui a une agence internationale qui prend l'intégrité du tennis, qui répond aux règles de l'agence mais qui gère son petit business de son côté et qui laisse planer le doute d'un conflit d'intérêts. C'est le seul sport où il y a une instance propre à une discipline, explique Jean-Pierre Verdi, qui est le patron de la FLD. En poursuivant, c'est le sport à part, mais personne ne dit rien. Le tennis est une anomalie. On ferme les yeux pour la beauté de ce sport, mais la face cachée est terrible. Il y a des gens qui disparaissent comme ça du circuit du tennis parce que de manière un peu...
Comme qui?
Cite des noms, hein. Qui? Non. Qui a disparu?
Ça, alors, non, Christophe. Du circuit. Alors, Christophe. Je pense que dans les années 90, fin des années 90, ce que tu es en train de décrire était possible et était certainement fait. C'est-à-dire que, concrètement, il pouvait y avoir des joueurs qui étaient contrôlés positifs. Et l'ATP.
Plutôt que de les sanctionner, on les fait.
Exactement. L'ATP pouvait avoir les résultats. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cette agence internationale indépendante. Et en fonction des noms, pouvait peut-être camoufler. Ça pouvait arriver. J'ai posé des questions à plusieurs médecins. Depuis qu'il y a l'AMA, FLD et le logiciel Adams, où il y a tous les jours, tu peux être contrôlé. Ils m'ont dit, franchement, de couvrir... Et la preuve, c'est que pendant certains mois, il y avait le secret de l'instruction, mais après, c'est sorti. Que les instances du tennis puissent couvrir des grands noms, c'est plus possible. Parce qu'il y a un truc, il y a vraiment des organismes indépendants.
Mais quand un Novak Djokovic refuse de se soumettre à un contrôle,
c'est pas normal.
Il dit que le timing n'est pas idéal.
C'est pas normal.
Mais je ne veux pas comparer au show. Ça, c'est pas normal.
La réponse de Julien. Ce n'est pas normal. Comme quand il y avait les premiers contrôles antidopage avec les tests sanguins et les sœurs Williams qui disaient non, moi, on ne me fait pas des piqûres parce que je suis témoin de Jéhovah ou je sais pas quoi. Non, t'es sportif de haut niveau, il y a des règles. Ça, je suis d'accord. Après, pour revenir sur la question, est-ce que ça entacherait l'image du tennis? Eric Salio l'a très bien dit. Moi, j'y étais à New York, je suis resté 4-5 jours. Il n'y a plus personne qui en parle là-bas. Les Américains sont passés à complètement autre chose. Mais ils veulent voir le spectacle, le truc. Ils ont une autre. Donc, je pense que pour là-bas, c'est un non-événement. Ça a parlé en coulisses. Parce que
et c'est la force de votre sport.
Non,
c'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas entacher l'image du tennis.
C'est
donc
pas
dès
entaché.
Qu'il y a un petit truc, c'est pas entaché.
Mais si... le seul truc qui ressort, c'est la différence de traitement entre certains qui ont pris des no-shows, qui n'ont jamais eu un produit interdit.
Mais tous les joueurs français se sont, et même tous les joueurs, tous les joueurs
qui sont suspendus. Médiatiquement.
Mais Julien, comment tu compares un no-show avec quelqu'un qui a été contrôlé et qui a expliqué comment? ça n'a rien à voir. Un no show, ça veut dire que concrètement, c'est quelqu'un qui peut être chargé comme une mule et qui a refusé de se présenter.
Je vais aller dans le sens de Christophe.
J'arrive, Pascal, justement, juste pour préciser ce que veut dire Julien, c'est que les joueurs français et d'autres joueurs du circuit, en tout cas en coulisses, ce qui nous remontait, ce qu'ils disaient d'ailleurs aussi publiquement, c'était de dire qu'il y avait deux poids, deux mesures.
Oui, bien sûr.
De le dire en off, Jean-Christophe, c'est pas suffisant.
Non, mais il le dit.
Puisqu'ils se plaignent. Que tous les joueurs de tennis et les tennis women qui sont pas d'accord avec la non-sanction qui a été réservée à Sinner, eh bien que tous ceux fassent grève. Comme ça, Sinner joue tout seul. S'ils veulent régler le problème, qu'ils règlent le problème. Or, j'ai l'impression que le problème, Christophe, pardonne-moi de te décevoir, il y en a pas. Il y en a pas de problème, Sinner. Point barre. Accepte-le une bonne fois pour toutes.
Non, mais ils ne sont pas d'accord. C'est pas qu'ils sont pas d'accord.
Mais j'ai pas dit qu'il y avait pas de problème dans le sport. On est en train de parler de Sinner. On n'est pas en train de parler de tous les sports. Alors si tu veux, on parle tout. Si tu veux, on parle de vélo.
C'est pas qu'ils ne sont pas d'accord sur la non-sanction et la non-suspension de Sinner. Ils reconnaissent que la défense de Sinner, qu'il n'y a pas eu une volonté d'améliorer sa performance parce que le taux de retrouvé est ridicule et infime, donc il n'améliore pas la performance. C'est pas ça. C'est que
ce traitement.
Exactement. C'est ça qui.
Qui se soulève tous.
Oui, mais c'est pas vis-à-vis de Sinner. Et c'est vrai que quand par exemple il y a un no-show, Fred, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Soit quelqu'un se cache pour aller se charger et du coup
c'est normal. Potentiellement, ouais, pas dit qu'il était chargé forcément, mais potentiellement ça peut être ça.
Et donc du coup c'est sanctionnable. Mais aussi il y en a qui ont eu des no-shows parce qu'il y a des négligences sur le logiciel, etc. de localisation. Mais pendant le même temps, en compétition, ils se sont fait contrôler. Ils ont toujours été négatifs et malgré ça, ils ont quand même pris de la suspension parce qu'ils n'ont pas respecté les règles, etc. C'est ça qui est difficile. Alors, soit ils sont mal défendus.
Vous avez bien un syndicat des joueurs de tennis professionnels.
Non, justement.
Le problème, c'est qu'on est lié
avec les directeurs de tournoi.
Qui décide. Il y a Stéphane qui nous appelle au 32-16. Il veut réagir à notre débat et je crois qu'il est dans le camp de Christophe Cessieux. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Merci à vous. Juste en préambule pour vous dire, mon fiston, il a eu la chance de rencontrer Sinner il y a 2 ans à Roland-Garros. C'est un garçon adorable, très gentil.
Ton fils ou Sinner?
Non, mon fils, les deux. Mais voilà, pour vous dire que ça a l'air d'être une personnalité vraiment très très agréable, qui se prend pas au sérieux. Par contre, nous qui sommes tennisman à la maison, moi je juge que c'est absolument catastrophique pour l'image du tennis. Et sans condamner Sinner, mais il y a un deux poids, il y a un 10 poids, 10 mesures. Il y a des sportifs qui ont été contrôlés ou des tennisman qui ont été positifs et qui ont été sanctionnés 1 an, 2 ans. Bon, c'était d'un no-show pour Michael Humer, qui est gros comme une crevette, qui a pris 2 ans. Donc Sinner, en effet, il n'a pas une masse musculaire importante. Cependant, après, le doute est là, le doute est émis, on se pose des questions. Et on sait bien qu'il y a des tribunaux sportifs dont vous avez parlé. Eh bien, il suffit de les corrompre, de les acheter, et puis voilà.
Non, n'importe quoi.
On ne peut pas dire que les gens, ils achètent les tribunaux sportifs ou quoi que ce soit. C'est des gens qui sont indépendants, faut respecter. Mais arrêtez de dire n'importe quoi. On n'achète pas. On n'achète pas des gens qui jugent, qui jouent des scientifiques ou quoi que ce soit.
Juste pour
n'importe quoi.
Calme-toi, Julien.
Non, attendez, Stéphane, je vais te redonner la main. Juste, Julien, c'est peut-être jamais arrivé dans l'histoire du tennis, et j'ai aucune preuve, mais ça a souvent été rapporté que dans le vélo, malheureusement, Lance Armstrong a pu bénéficier de beaucoup de largesse de la part de l'UCI par rapport à ses contrôles. Je ne sais pas si c'est ce que Stéphane voulait dire, mais c'est déjà arrivé, c'est ça.
Non, mais
c'est
différent. Mais non, mais ça n'arrive que dans le vélo, évidemment.
C'est différent des présidents de fédérations internationales
que dans le vélo qu'on peut acheter des dirigeants, pas dans les autres sports.
Responsables de laboratoire, des scientifiques et des gens qui sont dans les tribunaux, c'est pas pareil.
Stéphane va continuer. Vas-y, Stéphane.
Juste pour terminer, monsieur Benetton, on va pas faire la Vierge et Barouchée. On sait bien que les microcosmes sportifs souvent se protègent et le monde du tennis se protège aussi. C'est un petit microcosme. Mais là, c'est très très bien que des joueurs de tennis professionnels aient quand même élevé la voix. Bien sûr, ils vont continuer à jouer sur le circuit et que les petits joueurs, ça les dérange. Écoutez, ça les dérange au-delà de 200e. Il y a vraiment une hiérarchie aussi très élitiste dans le tennis et c'est normal que des tennismans aient quand même élevé la voix pour la première fois quasiment. Donc ça veut dire quand même qu'il y avait un problème, que dans les vestiaires, les gars ne veulent plus serrer la main à Sinner ou ne veulent plus lui parler. C'est quand même un problème, quoi. Donc c'est qu'il y a un problème. Il faut quelquefois aussi arrêter de se cacher la face. Et on sait bien que, comme l'a dit très bien pour le vélo. Le tennis, c'est aussi arrivé quand il y avait des Argentins qui étaient chargés à Roland-Garros et le microcosme du tennis les protégeait, quoi. Donc, à un moment, il faut arrêter de se voiler la face, quoi.
Ok, voilà. Stéphane, et moi, j'embraye là-dessus parce
que. C'est Niçois, non?
Non, c'est pas pour ça qu'il est avec Christophe.
Mais,
non, mais Julien, vraie question. Le vrai problème, c'est que je pense que tout le monde sur le circuit pense, à part. Peut-être quelques-uns, mais ne pense pas que Sinner ait voulu se doper. Mais la réalité est là, il a été contrôlé deux fois positif. Quand on est contrôlé deux fois positif, même si c'est une erreur de son staff, c'est une erreur en soi. Donc ça vaut sanction. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas de sanction, qu'il puisse se présenter à tous les tournois, qu'il puisse être en finale de l'US Open, ça fait pas un peu de mal au sport, ça ?
Aux joueurs, non ?
Même s'il n'a pas eu l'intention d'eux, vous voyez ce que je veux dire ?
Mais peut-être plus aux joueurs qu'au public, non ? Finalement, le cas de mesure dérange plus les joueurs en soi que le public qui continue à les déranger.
Mais tu sais qu'en 98, au moment de l'affaire Festina, les voitures des journalistes se faisaient caillasser par les supporters parce qu'on cassait le jouet, parce qu'on disait du mal des sportifs.
J'avais 14 ans et mon idole c'était Richard Virenque. J'étais devant ma télé et j'étais scandalisé et j'en voulais aux journalistes de me priver de Richard Virenque sur le Tour de France.
Non, mais t'étais anéanti.
Tu as totalement raison. Juste sur cette question rapidement, non, ouais,
Fred a raison, c'est plus les joueurs que le public ou etc. Les autres joueurs ont senti au début un malaise parce qu'il y avait une incompréhension sur beaucoup de sujets par rapport au Cassiner. C'est pourquoi pendant 4-5 mois personne n'a entendu
le timing,
donc pourquoi il a été à un moment donné il pouvait jouer, à un moment donné il pouvait pas jouer. Est-ce que il y a certains tournois où il a déclaré forfait pour blessure ou pour voilà. Est-ce que à ce moment-là en fait, il a pas joué ces tournois parce qu'il y avait l'instruction en cours et que du coup, là ça aurait été mieux de dire que l'ATP dise non, Sinner ne peut pas jouer parce que là il y a une instruction en cours.
Oui, c'est ça le problème, on a l'impression d'avoir essayé de cacher les choses,
c'est que l'ATP, quelqu'un qui est au bord de l'ATP m'a dit le CEO de l'ATP a appris l'affaire deux jours avant que ça ne sorte. Est-ce qu'il me ment quand il me dit ça? Ou est-ce que c'est vrai? Ça me paraît fou. Donc il y a beaucoup de... C'est très compliqué.
Pourquoi tu l'invites pas, au GG pour qu'il nous témoigne le gars
Il voudra ou pas? On va lancer l'invitation. Ouais. Et puis on verra évidemment. Mais en tout cas, personne dans cette émission ne dit Sinner est en finale parce qu'il est dopé. Non, fait qu'il y ait une erreur, est-ce qu'il avait le droit de concourir pour l'US Open? Et donc est-ce que cette finale entache un petit peu l'image du tennis? Merci Stéphane d'avoir composé le 32-16 et d'avoir été avec nous. Tu vois, tu t'es retrouvé en face sur la route de Julia Beneteau. Vous avez pu en discuter. 10h29, on se retrouve dans quelques instants. La punchline des GG. On parle de l'élection à la présidence de la LFP. Vincent Labrune, petit lettre. Relâchez, nous sommes à deux jours de l'élection. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.